Ici, l'être humain, et surtout le juif, il a autre chose que le corps animal, il a une âme. Et tu as fait l'effort, et tu as choisi de ne pas suivre la pulsion animale, mais de suivre la pulsion de vérité. Le gosse, il va à l'école, il voit que son père est ignare. Mais attention, c'est dangereux, parce que c'est bon. Ce jour dédié pour la Refuah Shlema de Maurice Moshe Mordechai Ben Esther, un bon ami à moi, Baruch Hashem, c'est dans la Refuah Shlema. Alors on accueille ici une classe de terminale, on peut dire de quelle ville? Bon, d'une ville sainte en France, Baruch Hashem. Il y a un de vos copains qui m'a écrit maintenant, de la ville sainte, Villeurbanne, Villeurbanne, d'accord, comme ça il m'a écrit, Villeurbanne, la ville sainte, comme ça il l'appelle. Et c'est vrai que c'est une des communautés, si pas la communauté la plus réussie, je pense, de France. Et donc, on pose la question que se posent beaucoup de jeunes gens de votre âge. L'année prochaine, un an de yeshiva ou directement dans les études? Alors, vous imaginez bien que je ne vais pas vous dire d'aller directement dans les études. C'est évident, un an de yeshiva, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Est-ce que je pourrais expliquer, ça ne sera pas un millième de la réalité. La question, elle est, pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi on est venu sur Terre? Beaucoup de gens, sous l'influence occidentale, répondent « on veut kiffer ». Voilà, c'est tout. Pour kiffer, il faut de l'argent. Parmi les kiffés aussi l'honneur. Donc si j'ai un métier honorable, une paye honorable, une bagnole honorable, un pavillon honorable, des vacances honorables, j'ai réussi ma vie. Dans ce cas-là, effectivement, si c'est ça là. Le but de la vie, alors vas-y, va travailler, fais de l'argent et crève, d'accord. Dans 70 ans sous terre, avec, tu auras eu des belles vacances, tu auras un beau pavillon, et puis tu auras raté ta vie. Pourquoi je dis raté ta vie? Parce que ces pensées-là sont des pensées animales, c'est tout. Prenez un chien, demande à un chien, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Moi, je veux la bonne bouffe, je veux des bonnes chiennes, je veux une famille, je veux un bon lit et une bonne niche, d'accord. Je ne veux pas qu'on m'énerve parce que j'aboie et je mords. Et voilà, et puis bien dormir. Et le chien le fait mieux que nous. Je suis convaincu que si on faisait une étude comparative entre le bonheur des chiens et le bonheur des êtres humains, les chiens gagneraient beaucoup plus. L'homme souffre. Très peu de gens réalisent ce souhait-là d'avoir de l'argent, suffisamment pour vivre bien. Je vous dirai un secret, moi je viens d'un... J'avais un père millionnaire et je venais d'un endroit où il y avait beaucoup de millionnaires. Je crois que la densité est une des plus grandes au monde au mètre carré, à Genève. Tous les fils de millionnaires étaient mes copains. Presque chacun avait son psychologue attitré. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Je peux vous le garantir, je l'ai vu de mes yeux. Et plutôt le malheur, plutôt le malheur. Donc les chiens gagneraient. Alors je ne comprends pas. Si Dieu existe, on parle maintenant à des gens qui sont croyants, pourquoi est-ce qu'il a créé un monde où les chiens sont plus heureux que les hommes? Réponse, le but, ce n'est pas être un chien. Le but, c'est être un homme. Et un homme, ça signifie être à l'image de Dieu. Le bonheur, je suis d'accord, mais le vrai bonheur, c'est quand ça te remplit. Il y a deux parties en nous. Il y a la partie corporelle et la partie divine. La partie corporelle, alors ce qu'elle veut, c'est ce que le chien veut, c'est tout. Elle ne veut surtout pas la partie divine, elle est anti. Lui casse les pieds. Au niveau du corps, qui aime prier? C'est casse-pieds. Qui aime Shabbat? Bon, alors on bouffe bien, au moins c'est bien. Et on ne peut rien faire qui est sympa, le portable, la télévision, le foot, machin, rien. Tout ce qui est bon, les filles, c'est interdit. Le corps, il n'est pas content de la Torah. Alors, où Dieu s'est trompé, il nous a donné une Torah pour nous casser les pieds. Il y en a qui croient comme ça. Tu vas peiner toute ta vie, tu vas souffrir, tu auras un beau Olam Haba. Ok, admettons. Et on nous dit, Olam Haba, c'est éternel, ça vaut des milliards de milliards de milliards par rapport à... C'est comme si on dit à quelqu'un, c'est un argument bidon. Mais c'est vrai que ça peut toucher quelqu'un. On lui dit, tu préfères être milliardaire un mois, puis après dans la misère toute ta vie, ou dans la misère un mois, après milliardaire toute ta vie. Tout le monde voudra la deuxième solution. Là, on dit la même chose. Tu vas souffrir ta vie ici, mais après tu auras l'infini. Pas toute ta vie, l'infini. L'infini, c'est C'est un peu de maths hein, pour le bac. Un milliard, deux milliards, deux milliards par rapport à l'infini, combien ça vaut? Zéro. Rien du tout. Donc on nous dit, je souffre ici et tu auras un grand lama là-bas. Ok, mais moi je dis que c'est un argument bidon. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre ici. Ici, l'être humain, et surtout le juif, il a autre chose que le corps animal. Il a une âme. Il cherche un sens à sa vie. Et beaucoup de gens, pas votre âge, mais plus tard, la trentaine, quarantaine, 50 ans, tombent en déprime. Parce qu'ils veulent se remplir. Ils voient qu'ils ne se remplissent pas, ils se sentent vides. Alors comment on fait pour se remplir? Encore plus de plaisir, encore plus, encore plus. Puis vu que c'est le plaisir animal, touche que l'âme animale, mais moi j'ai besoin de remplir moi-même, ce n'est pas l'animal, l'animal c'est mon corps. Je ne suis pas un corps, j'ai un corps. Le juge qui dit qu'il y a un corps, c'est qui ce juge, ce moi? Il a un corps, mais il n'est pas un corps. Ce « je », si quelqu'un va penser toute sa vie à nourrir son corps et l'assouvir tous ses plaisirs, ce « je », il est affamé, il est vide, il est malheureux. Et vu que dans le monde occidental, on nous dit « tu veux être heureux, aie encore plus de plaisir de ce monde », alors il se remplit toujours plus, mais c'est vide, ça ne va pas le remplir à lui. Comme quelqu'un, il a besoin de boire, on lui donne à manger. Alors il mange, boire, mais il a toujours soif, d'accord? Ton âme, elle reste vide, elle a soif, et tombe en déprime. Comprenez, à votre âge, ça commence un tout petit peu, mais plus quelqu'un grandit dans sa vie, plus son âme, elle grandit. Et il y a des besoins de l'âme. Et un beau jour, le corps, il crève, et l'âme, elle va rester. C'est nous, le vrai moi. On doit réaliser le but de notre venue sur Terre, c'est pas être un animal. C'est développer, réaliser soi-même. Le soi-même, il n'est pas animal. Il a un animal. Pourquoi il a l'animal? Parce que Dieu veut qu'on ait un libre arbitre. Et que si on choisit, alors on a un mérite, que ça nous revienne vraiment. Dieu aurait pu ne pas nous créer, nous laisser là-haut, au paradis, etc. Mais on n'aurait pas eu droit à ce paradis. Ce serait un cadeau gratuit, tu n'as rien fait pour. C'est pas à toi. C'est quand que c'est à toi, quand tu avais le choix. Et tu as fait l'effort, et tu as choisi de ne pas suivre la pulsion animale, mais de suivre la pulsion de vérité. Tu as eu l'amour de la vérité, tu as eu l'amour du sens, tu as eu l'amour du peuple d'Israël, tu as eu l'amour du Dieu d'Israël. Et pour ça, tu t'es donné, tu t'es investi. C'est difficile, parce que le corps, il ne veut pas ça. Tu t'es battu, tu as droit. Et c'est à toi. Et comme ça, tu construis toi-même, ta neshama. Nous, on est une neshama. Il y a une partie qu'on appelle la nefesh behemit, l'âme animale, une partie qu'on appelle la neshama. Notre vrai moi, c'est la neshama. Elle a une partie animale. Alors si maintenant quelqu'un se dit, je peux faire un an de yeshiva, et il n'y a pas mieux dans la vie, pas mieux dans la vie. Parce que jusqu'à maintenant, on va dire, tu étais en formation. Là, le bac, tu as fini. Ok, maintenant, tu commences ta vie. Maintenant, tu as plusieurs options. C'est clair qu'un an de yeshiva, ça change la personne. C'est prendre un an de sa vie à savoir qui je suis, pourquoi je suis là, comment étudier une page de Gemara, comment connaître la Torah, comment apprendre à maîtriser ma partie animale. Tout ça, c'est un apprentissage pour la vie. Alors, ce n'est pas qu'un an, c'est que tu prends une voie, tu comprends, tu as deux voies. Alors, tu as une voie qui va aller comme ça, puis une voie qui va aller comme ça. Alors, chaque année, sans cesse, tu montes beaucoup plus haut. Alors, quelqu'un dira, mais je peux rester un bon juif aussi sans faire un an de yeshiva. Oui, mais tu vas rester petit. Petit! Et comme quelqu'un dit, je peux faire des études de plombier, je peux faire de chirurgien plastique. D'accord? Bon, dans les deux, tu gagnes ta vie. Mais combien gagne le plombier, combien gagne le chirurgien plastique? C'est la même chose exactement. Tu penses à un petit juif, nul. Tu vas faire tes petites heures de Torah par-ci par-là, etc. Mais tu rates l'essentiel. Alors, je ne vous dis pas de venir, si quelqu'un devient toute sa vie après un étudiant Torah, c'est encore mieux. Mais si tu as une formation pendant un an qui te permet après d'avoir un niveau, tu es déjà autonome en Gemara, tu as le goût de la prière. Qui peut dire à votre âge qu'il a le goût de la prière? Moi, j'ai prié des fois, hélas, dans des écoles juives, mais c'était malheureux comme tout. Tu vois les élèves devant leur sidou comme ça, en train de tourner les pages, la corvée. Alors que c'est une des plus belles choses de la vie, la prière. Ça ne s'apprend pas durant la vie à Lyon, désolé. Ça s'apprend dans une yeshiva. La traduction de la prière, le sens de la prière, les cours sur la prière, que tu commences à goûter à cela, c'est quelque chose de plus beau, c'est une chose la plus belle qu'il y ait au monde, la prière. Tu es en relation avec Hachem. Savoir étudier la Torah, être un connaisseur en Torah, pas toujours passer par les traductions en français, etc. Après un an, tu as un niveau qui te permet de réussir ta vie. Tu ne seras pas le même mari pour ta femme. Tu ne seras pas le même papa pour tes enfants. Un jour, un gosse, il demande à son père, papa, le père demande au gosse, qu'est-ce que tu dis maintenant? J'étudie Baba Batra. Ah, quoi, c'est le cousin de Baba Salé, d'accord? Ignare! Ignare! Le gosse, il va à l'école, il voit que son père est ignare. Si tu veux réussir l'éducation de tes enfants, il faut donner un contenu, pas que un... Les enfants aujourd'hui sont intelligents, ils veulent des réponses. Ils verront un papa et une maman qui vont pratiquer. Mais posons quelques questions. Le papa et la maman, ils disent, c'est comme ça, on ne pose pas de questions. C'est suffisant ça? Ça ne marche plus. Il faut des réponses. Durant cet un an de Yeshiva, tu reçois des réponses. Tu reçois les moyens de trouver les réponses. Tu sauras aller dans les livres et chercher, etc. Donc il n'y a pas de comparaison. Et je vous parle maintenant de réussir votre vie. Parce que la réussite de la vie, ce n'est pas combien d'argent tu auras dans ton compte. Ça n'a rien à voir, ça c'est la partie animale. Mais toi, l'éducation des enfants, le shalom bayit, la qualité de vie dans la maison, ça tu vas apprendre où? Dans quelle école au monde on apprend ça? Nulle part. Ici oui. Respecter son prochain, aimer son prochain, réveiller en nous les bonnes midotes, à l'image, devenir à l'image de Dieu. La Gemara dans le traité Bava Batra, elle dit, page 75b, à la fin des temps, on va appeler le tzadikim au nom de Dieu. On peut appeler un tzaddik, un homme, un être humain au nom de Dieu, aussi tzaddik qu'il soit. Je suis gonflé lire un truc pareil. Il y a un type, il a fait ça il y a 2000 ans, il a fini sur une croix. D'accord? C'est pris pour un dieu. Ils m'ont écrit des curés. Alors, mais si vous dites que c'est écrit dans le Talmud, donc c'est possible. J'ai dit, mon cher ami, pas il y a 2000 ans, à l'époque messianique, une fois que ma chair viendra, il n'y aura que le bien. Ah, tout le monde verra les tzaddikim. On va les appeler des dieux. Pourquoi on va appeler des dieux des êtres humains? Parce que durant leur vie, ils sont devenus à l'image de Dieu. Ils savent exactement qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Ils font le bien tel que Dieu veut. La présence divine vient sur eux. Quand on fait une mitzvah, le mot mitzvah, c'est quatre lettres. Mem, tzadik, vav, hei. Les lettres vav, hei sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Les lettres mem, tzadik sont dans un alphabet qu'on appelle le Akbash, un alphabet de Kabbalah. Akbash, c'est les lettres à l'envers. Aleph est égal à taf. Première, dernière. Bet, deuxième, à Shin, avant-dernière. Gimel, Resh, Dalet, Kouf. Les lettres, même Tzadik, les deux premières lettres du mot mitzvah, en Atbash, sont les lettres Yud et puis Hei. C'est quoi en tout? Ça fait les quatre lettres du nom de Dieu. Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Quand tu fais une mitzvah, tu amènes sur toi la présence divine. Tu deviens divin. C'est ça ce que Dieu veut. Pour ça, il a créé un monde pareil. Pas pour qu'on soit comme des chiens. Moins bien qu'un chien. Qu'on soit à l'image de Dieu. Est-ce qu'il y a un bonheur plus grand que ça? Ça n'existe pas. Mais pour ça, il y a un apprentissage. Tu as pris pendant 12 ans maintenant à faire des maths, la géographie, de l'histoire, ok, et apprendre toi. Ça, non? On va encore t'apprendre à faire... C'est le monde Goy. Nous apprend... Écoute, Goy signifie corps. D'accord? Un Goy, il veut un corps. Allez, ouais. Le corps, qu'est-ce qu'il veut? De l'argent, des profits, des filles, de la bouffe, etc. Ok, vas-y. Mais on n'est pas Goy. On est le peuple de Dieu sur terre. Et Dieu nous demande quelque chose. On a un exemple qui a montré aux nations. Et bientôt vient Mashiach. Mashiach viendra, tout le monde est un million en banque. Mais ils s'en foutent ton million en banque. Montre-moi le nombre de mitzvot que tu as fait. Le nombre de Torah que tu as fait. En deux mots, messieurs, il ne faut pas investir dans ce qui n'est pas, dans le mensonge. C'est quoi un mensonge? C'est ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. D'accord? Je prends ce mouchoir, je vous dis, c'est une poule. C'est vrai? Non, c'est faux. Pourquoi? La réalité, c'est faux. Ce que propose le monde Goy, c'est quelque chose de fallacieux, de faux. Parce que tu n'auras pas le vrai bonheur en passant par là-bas. Non. Tu auras une satisfaction du corps. Mais tu n'es pas un corps. La vraie satisfaction, c'est de toi. Et la Torah te donne maintenant comment remplir ce toi, comment le réaliser, comment le rendre heureux, vraiment. Toi, ton entourage, on ne parle pas de Olam Haba après, Bezrat Hashem. Voilà, je crois que j'ai fini. Des questions sur le sujet, messieurs. Ou d'autres sujets. Oui.
Est-ce que malgré le fait qu'on sait que ça ne sera peut-être pas pour nous et que maintenant on sait qu'ils ont fait la Yeshiva, ils ont intérêt encore pire que ce qu'ils pouvaient être.
C'est rare. C'est rare.
Pas si rare. Il y a des exemples de personnalités publiques, je ne vais pas dire le nom, mais il y en a beaucoup comme ça.
Gad Elmaleh.
Voilà.
Mais il est parti tordu à la Yeshiva déjà. Laisse tomber. C'est rare, c'est rare, c'est rare. Regarde, je vais te dire. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie de réussite. Mais vu que la hypermajorité des gens qui vont à la Yeshiva, ils réussissent. D'accord, si quelqu'un n'a pas envie, on ne peut pas l'envoyer, qu'il ne vienne pas de force, c'est clair. Obligé par ses parents aussi, c'est complètement ridicule. Moi, je parle, ici, on n'a personne qui est venu malgré lui, d'accord? C'est surtout, on a beaucoup aussi de Baal Tshuva ici. Baal Tshuva, c'est les gens qui étaient loin et qui ont compris, ils sont amoureux de la Torah. Et c'est communicatif. C'est les gens qui sont des endormis, qui sont venus ici d'école juive, des endormis, d'accord. Et quand ils ont vu l'amour de la Torah qu'il y en a chez les autres, c'est communicatif. Donc c'est ça qu'on veut réveiller chez la personne. C'est rare que ça ne marche pas. Et on ne vit pas dans un monde de 100% de choses. Alors il y a des chances, un risque minime de non-réussite, mais c'est clair que mieux vaut pas rater. Toi, tu dis, c'est comme la paracha de la semaine. Pharaon a dit, on tue tous les mâles, tous les enfants mâles. Alors Amram, le père de Moshe, il a divorcé. Amram a dit que sa fille est venue, Myriam lui a dit, t'es pire que Pharaon. Pharaon, il a fait un décret sur les mâles, toi tu fais un décret sur les mâles et les femelles. Il t'a raison, il s'est remarié et Moshe est né. Toi tu dis, vu qu'il y a un risque, que si je vais à l'Yeshiva, ça ne va pas me plaire, donc c'est clair, j'y vais pas. Ton décret est pire que celui de Pharaon. Toi tu dis rien, ou alors, non, je tente le coup. En plus, dans le cas du père de Moshe, c'est la moitié qui était tuée. Là, tu as 98% de chances de réussite, que ça te plaise. Ce que je propose, moi, c'est venir une ou deux semaines. En été, par exemple, à un moment du livre, tu viens, tu vois, voilà, où ça passe, où ça casse. C'est la meilleure des choses à faire.
On peut venir des petites...
Absolument. On vient quand on veut, comme on veut, quand vous voulez. Mais attention, c'est dangereux, parce que c'est bon. Ben, va, t'achèves. Oui.
On a dit que la yeshiva, ça apprend à nous construire pour la vie.
Oui.
Mais est-ce que c'est possible, de se construire soi-même sans yeshiva?
Très difficile. Très difficile. La Torah, on l'a reçue, nous, de nos maîtres, qui l'ont reçue de leurs maîtres, comme ça jusqu'à Moshe Rabbeinu. D'accord, il y a des choses qu'on peut pas apprendre tout seul. C'est très très difficile, presque impossible. Et que ce soit au niveau des midot, tu travailles sur soi-même. Parce qu'il y a des questions que tu poses, il y a des rabbanim, mais tu parles avec eux. Il y a tout un enseignement oral qui provient à la base de Moshe Rabbeinu, que nous on a reçu de nos rabbins, qui ont reçu de nos rabbins, etc., etc., etc. Tu comprends? Que ce soit au niveau du travail sur soi-même et au niveau aussi de l'étude sur texte. Il n'y a pas de livre qui explique comment étudier une page de Gemara. Il y a des livres qui expliquent la Gemara. Mais comment étudier? Quelle est la méthode? D'accord? Qu'est-ce qu'une bonne question? Qu'est-ce qui n'est pas une bonne question? Tout ça, c'est un monde. C'est comme tu dis, quelqu'un il va apprendre maintenant les chirurgiens dans les livres. Ben, je plains le type, le premier qui va se repérer par lui. D'accord? Il y a la technique. Voilà, la technique de la vie. Oh, Rachel.